Onde Noire, bonsoir. Onde Noire, bien sûr, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Sans transition et après quelques annonces publicitaires, nous avons le très grand plaisir de recevoir Michel Pedinilli. Bonsoir Michel.
Bonsoir.
Oh, on vous entend très peu, mais je pense que ça va s'arranger très très vite. Ravie de vous recevoir dans notre émission. Votre premier roman est sorti début février, je crois, aux éditions de l'Aube, collection Aube Noire. Bocanera en est le titre, et c'est aussi le nom de votre personnage principal, qui s'appelle Giulia Bocanera. Je prononce bien ?
Oui, c'est ça.
Giulia. C'est ça, donc, vous étiez, vous êtes peut-être toujours, excusez-moi, ça, je ne rentre pas trop dans la vie privée des gens, vous êtes journaliste. Comment glisse-t-on tranquillement, ou peut-être pas du tout tranquillement, de cette écriture journalistique à l'envie d'écrire une fiction, un roman, une frustration d'écrire trop court ?
Alors, il y a un petit peu de ça. Il y a le fait que quand on est journaliste, on écrit surtout sur les faits. Donc l'imagination n'est pas tellement au pouvoir. En fait, tout est parti d'un déclic. J'ai participé à un concours de nouvelles au festival Polar du Sud de Toulouse en 2015.
Excellent festival de littérature policière.
Oui, super festival. Et cette nouvelle a été primée. Et du coup, il y a plein de gens qui m'ont dit « Pourquoi t'écris pas plus long ?» Alors, bonne question. Je me suis dit peut-être que je peux mourir écrasé sous un bus, j'aurais jamais essayé. Donc je vais essayer d'écrire plus long. Et forcément d'écrire un polar, parce que c'est ce que j'ingurgite à longueur de temps et que j'adore. Donc voilà, je me suis lancée là-dedans grâce à ces déclics en fait.
Donc vous avez donné une idée première, c'est-à-dire effectivement d'écrire la littérature que vous adorez et que dont apparemment vous êtes une fervente défenseur et adoratrice. Mais j'ai aussi l'impression que l'idée, c'était de raconter Nice, mais pas n'importe lequel, votre Nice.
Oui, tout à fait. Je suis née à Nice et puis j'ai passé 22 ans à Paris pour faire une vie à Paris en fait. Et puis je suis revenue dans ma ville natale. Et en fait à Paris j'ai quand même entendu plein de trucs sur cette ville, plein de clichés, plein de préjugés, des choses justes hein, aussi. Hein, quand on dit que des vieux et des fachos chez toi, ouais bon, mais non. Il n'y a pas que. Et en fait, voilà, je voulais parler de Nice, de ma ville, ma vision de cette ville, qui est peut-être fantasmée, enfin forcément, mais je voulais la montrer telle que moi je la vis, c'est-à-dire ça n'est pas une carte sale, même si on a sûrement les plus beaux paysages du monde.
Ça c'est subjectif.
Tout à fait. Alors moi, je revendique tout à fait ma subjectivité. En fait, j'ai tellement de souvenirs. Alors, je peux dire aussi que Florence est la plus belle ville du monde, hein, parce que c'est pareil. Voilà, j'ai des souvenirs, j'ai des coups de cœur, mais voilà. De manière tout à fait subjective, je trouve que cette ville est magnifique, mais elle est mal vue, sûrement de l'extérieur. Donc je voulais montrer cette ville telle que moi je la vis, avec des gens, des personnages, des personnes, qui sont hors des préjugés qu'on peut avoir sur les Niçois en fait.
Alors hors des préjugés, mais comme d'ailleurs beaucoup d'écrivains de polar, on peut parler de Pelicanos, on peut parler de plein d'auteurs avec leur ville, Jérôme Charine avec New York, il y a quand même une relation haine-amour, parce que vous n'hésitez pas non plus à désinguer un certain nombre de systèmes qui sont plutôt, allez, ne disons pas peut-être niçois pour pas être trop, mais bien méditerranéen. Hein.
Oui, tout à fait. Je suis quand même sur cette ville. Non, justement, je l'aime avec ses imperfections. Je l'aime avec son histoire. Donc je voulais parler de mon ville. Et puis imaginer des choses dans cette ville qui sont de l'ordre du probable, du possible. Je ne vais pas tout dévoiler.
Non, surtout pas, on ne va pas raconter l'histoire.
Mais effectivement, il y a des systèmes à Nice qui fonctionnent depuis des années, qu'on retrouve dans d'autres villes du Sud, mais pas que, parce que finalement, le clientélisme, c'est quelque chose d'assez bien partagé un peu partout
tout à fait.
En France et dans le monde. Voilà. C'est vrai que chez nous, c'est... il y a une petite prégnance de ce système-là.
Voilà, et pour arpenter cette ville, donc, vous nous présentez dans ce livre, vous avez inventé, entre guillemets, un personnage, Giulia Boccanera, détective privée, je dirais, de choc, chaussée de Doc Martens, elle habite le Vieux-Nice, elle y mange, elle y dort, elle y travaille. Comment on peut la qualifier, une emmerdeuse? Dans le bon sens du terme, je précise.
Ouais. Oui, gentille emmerdeuse, c'est-à-dire qu'elle va, finalement, c'est une détective privée, donc elle va devoir mettre son nez chicanassé un peu partout, quoi, hein, voilà, donc mettre son nez dans les affaires qu'on lui apporte, et quand on lui apporte une affaire de mœurs non résolue, ben, il va falloir qu'elle mette justement ses Doc Martens dans le plat, quoi. Je crois qu'elle a une petite dose d'inconscience quand même face au danger. Voilà, et puis à part ça, ben, effectivement, elle arpente la ville avec des certitudes et puis des doutes aussi. Hein. Elle n'est pas, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Des fois, elle se lance un peu à l'aveugle dans des histoires, dans des aventures. Voilà, elle doit emmerder des gens, hein, c'est sûr. Mais sinon, je crois qu'elle est plutôt... C'est plutôt sympa, je pense.
Ouais, c'est une gentille, de toute façon, c'est une gentille, parce que j'avais réservé cette question pour un petit peu plus tard, mais on peut la poser tout de suite. Elle a une empathie pour, je dirais, les plus démunis, les plus faibles. Et ce qui est très, très agréable dans ce roman, c'est toute la collection de personnages secondaires qui sont un petit peu les petites gens, et ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, comme Colette, comme le colocataire, Dan, comme surtout son voisin, le gentil monsieur qui va la sauver. Plein de gens qu'elle va rencontrer, qu'elle va aider et qui, en retour, deviennent ses amis et qu'elle aide aussi.
Oui, tout à fait. En fait, dans l'écriture, je dirais presque que ce sont les personnages qui se font imposer en premier, finalement. J'avais envie de parler de gens comme ça, parce que c'est des gens soit que je côtoie, que je connais, soit que j'ai inventé, mais qui sont tout à fait probables, possibles. En fait, parce que je crois que fondamentalement, moi, j'aime les gens. Ça, voilà. J'aime les regarder, j'aime les observer, j'aime les écouter. Et puis après, j'aime imaginer une humanité, une humanité, une collectivité, des gens qui, voilà, des gens, des petites gens, oui, mais tout à fait, moi ça me va, hein, voilà, les gens de peu, mais qui s'entraident, qui sont solidaires, et qui vivent une vie, enfin c'est une vie normale, pas très extraordinaire, mais une vie, où l'humanité est la, on va dire, le maître mot, en fait, hein, le soin apporté aux autres et l'écoute. Qu'on peut avoir pour les autres. Pour moi, c'est important. Donc, effectivement, les personnages qui entourent Giulia, sont comme ça. Tous les deux personnages qu'elle aime, sont empreints d'humanité. C'est ce que j'ai essayé de...
Vous avez beaucoup de tendresse pour eux. Et il y en a un que je révèle. Et sans déflorer l'histoire, il va y avoir un meurtre. Le compagnon de la personne assassinée, de l'homme assassiné, va venir voir Giulia et lui-même va être assassiné. Et le papa de Dorian, le deuxième mort, Monsieur Lassalle, on le voit pas beaucoup dans le roman, mais il a beaucoup, beaucoup de place, finalement.
Oui, alors, c'est fou que vous... parler ça parce qu'effectivement c'est un personnage qu'on voit peu, qui est juste un peu qui est là parce qu'il est juste un peu déclencheur presque d'une deuxième enquête, mais j'ai écrit ce personnage en pensant à quelqu'un que au père d'ami à moi, voilà, qui est décédé tragiquement il y a 8-9 ans, qui était quelqu'un comme ça, hein, qui était un artisan plein de bonté, plein de joie de vivre, un très bel homme. Que j'aimais beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte que j'ai écrit ce personnage de Monsieur Lassalle en pensant à lui. Voilà, et c'est fou que vous l'ayez relevé, parce que du coup, c'est très émouvant. Je l'ai dit à mes amis, hein, que j'avais écrit ce personnage en pensant à leur papa. C'est arrivé comme ça. Et ouais, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et du coup... il est un petit peu dans, dans le livre. Voilà,
un petit peu, mais quand même très prégnant. Et donc, on va revenir quand même au personnage principal, Giulia. Il y a aussi son ex, qui est un peu le pendant, parce que alors, lui, il est quand même beaucoup plus calme. Joe Tantucci. Alors, vous dites, j'espère que vous n'allez pas tout de suite en Corse, parce que vous dites à un moment donné de ce flic, Joe Tantucci, son ex-mari, que pour un Corse, il a beaucoup d'humour, et qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc, je trouve que vous prenez des risques un petit peu quand même là. Et Giulia, j'ai l'impression aussi qu'elle porte votre voix parce qu'elle tempête, elle éructe, elle explose. Et au fur et à mesure qu'elle enquête sur les dessous de ces deux assassinats, puis elle va être elle-même attaquée, elle va échapper à plusieurs, on va dire, entre guillemets, attentats. Les différentes voix de l'enquête, c'est un peu vos indignations, je me trompe ?
Non, bien sûr, parce qu'il y a pas mal de moi dans Giulia, et effectivement, alors il y a Joe Santucci, lui, c'est le côté carré de la loi, puisqu'il est aussi tellement, il est commissaire, donc lui, effectivement, il est carré, et il a des procédures à suivre, voilà, tandis qu'à la côté, il a tendance à faire feu de tout bois et à partir bille en tête, et effectivement, à s'indigner régulièrement et voilà de ce qu'elle peut rencontrer, qui est effectivement mon cas. Voilà, je suis quand même moins téméraire qu'elle, mais j'ai tendance à m'énerver assez souvent et à m'indigner assez souvent. Je pense que j'ai mis pas mal de choses de mes colères ou de mes énervements dans cette enquête là.
Mais je dirais aussi très subtilement, puisque en fait, vous éplorez des sujets très graves grâce à des personnages ou des situations. On dit deux mots aussi de ce joli couple avec ses deux enfants, Mohamed et Zeyna, qui ont fui la Syrie. Donc des migrants, des gens qui travaillent d'ailleurs dans le vieux Nice, qui lui réparent. Et voilà, vous évoquez un petit peu, sans le dire, cette situation des migrants. C'est aussi très touchant.
Oui, c'est-à-dire, je ne voulais pas du tout faire un livre politique au sens carré du terme, voilà. Sauf que comme on vit forcément, moi quand je en vivant et en m'indignant, donc forcément je fais de la politique tout le temps, mais donc voilà, je voulais parler de différentes choses, dont les réfugiés, les migrants, et le faire effectivement, je ne voulais pas faire une tarte à la crème, quoi. Tout blanc, tout noir, ou des choses comme ça. Et donc voilà, j'ai voulu parler de la question des réfugiés, des migrants qui arrivent via Vintimille, par la Roya, etc. Voilà, en parler, comme vous le dites, tranquillement, l'effleurant, juste en donnant envie aux gens d'aller voir ce qui se passe de ce côté-là, parce que ce sont des gens, ce sont des humains, ce sont des personnes qui ont une vie, qui ont un avenir. Dans le couple que j'ai imaginé, c'est la femme qui a fait des études d'ingénieur et elle se retrouve auxiliaire de vie ici, voilà, donc avec un déclassement, mais forcément, voilà, avec des espoirs qui ont été brisés par une guerre, voilà. Mais effectivement, je voulais qu'on s'attache à des personnages, à des gens, plutôt qu'à une situation ou un problème. Voilà, je voulais pas parler du problème des migrants, mais effectivement, je voulais montrer des gens qui vivent, qui tentent de vivre, voilà, malgré la guerre, malgré ce qui leur est arrivé là-bas. Et en espérant que voilà qu'ils trouvent du répit et un futur ici ou ailleurs, hein, où ils ont envie d'aller en fait.
En tout cas, pas loin d'ici quand même. Il ne reste plus beaucoup de temps, donc deux questions avant de parler de votre actualité, parce qu'on va pouvoir vous retrouver pas mal de fois dans la région, et ça, il faut le dire à nos auditeurs. Au niveau du rythme et au niveau de la narration, c'est un récit qui est très tonique, très survitaminé. Vous avez beaucoup travaillé le rythme, vous avez beaucoup repris, coupé, revenu sur la tonicité, parce que c'est vraiment, ça n'arrête pas, quoi.
Oui, en fait, j'ai travaillé en fluidité, c'est-à-dire que, ça venait comme ça venait, mais j'ai travaillé sur, euh, sur un ordre chronologique. Enfin, je me suis imposé des jours de la semaine.
D'accord.
Donc, disons que toute cette histoire se passe entre, je ne sais, une semaine ou 10 jours. Voilà. Et donc, chaque jour, ou chaque matinée, ou chaque après-midi, finalement, est rythmé par un événement ou un...
D'accord.
Quoi, voilà, qui se passe. Donc, en fait, j'ai travaillé là-dessus pour essayer de faire... J'avais pas envie de m'emmerder en écrivant. Je voulais pas que... Voilà. Donc, j'avais envie d'un vrai rythme et un peu comme un film bien monté, quoi. Enfin, avec un bon découpage, un bon montage. Et voilà, donc je me suis attachée...
Un bon montage.
Voilà, au montage, ouais.
Alors, vous parlez de films. Ce qui m'amène à cette dernière question, dans les descriptions, il y a pas mal de descriptions, des détails. Il y a une particularité, c'est qu'en fait, il y a beaucoup d'auteurs qui se servent justement de scènes plutôt cinématographiques, plutôt de photos. Vous, j'ai remarqué, vous vous servez énormément d'artistes, de peintres. Vous évoquez le Titien, Frida Kahlo, Artemisia Gentileschi. Vous utilisez énormément la peinture, qu'elle soit ancienne ou moderne.
Oui, alors c'est quelque chose, voilà, parce que j'aime l'art contemporain et l'art plus ancien, on va dire. Effectivement, ça arrive, j'ai des images qui arrivent effectivement comme ça, hein, sous forme parfois de tableaux, comme ça, de flash, ça arrive sous forme de film, mais effectivement, souvent sous forme de tableaux. Et j'avais envie de parler de femmes peintres que j'aime, hein, entre Frida Kahlo et Artemisia. Et puis, voilà, il y a des clins d'œil. Mon père est lui-même plasticien, donc il y a des clins d'œil à son œuvre. Je voulais montrer que Nice est aussi un projet de création contemporaine. Hein. Il n'y a pas que l'école de Nice d'il y a 50 ans, hein, très bien. Mais je veux dire que Nice, en 2016, puisque je l'ai créé en 2016, il y a des artistes qui créent en peinture, en sculpture, en musique, enfin, dans tous les domaines de l'art. Donc Nice est une ville très vivante et moi je me suis servie effectivement de cette vision un peu picturale pour décrire cette ville que j'aime.
Bah, écoutez Michel, on est obligé de vous interrompre parce qu'on arrive au terme de votre émission. Par contre, on dit à nos éditeurs qu'on peut vous retrouver au Rouret le 17 et le 18 mars au festival Les Passeurs de Livres et puis à la bibliothèque Louis Nucera le 20 mars à 17h et puis bientôt à Saint-Laurent-du-Var fin avril. Merci beaucoup Michel, à très bientôt.
Merci beaucoup à vous, au revoir.